On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Bon, on va recommencer simplement par cette histoire, par cette légende. On va commencer comme ça. Donc, j'ai demandé Isabelle Peloux, qui est la directrice de l'école l'école du Colibri aux Amanins. Donc, on parlera des Amanins, on parlera de cette école, on parlera de l'éducation. Mais d'abord, on va commencer par une histoire. Isabelle, je vous écoute.
Donc, tu veux quelle histoire ?
Celle du Colibri. Ou une autre, pourquoi pas ?
Non, celle du Colibri, c'est très bien. Donc, l'histoire du Colibri. Écoute, c'est une histoire qui se passe en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne. Il y a un immense incendie. Tous les animaux sont terrassés au bord de la forêt en disant « mais c'est épouvantable, toutes nos réserves sont en train d'être détruites, notre habitation, on ne pourra plus manger, c'est horrible, oh, quel feu immense, on ne peut rien faire, c'est épouvantable. » Et au bout d'un moment, le tatou observe qu'un petit colibri part chercher de l'eau dans son bec, va au-dessus du feu verser sa goutte, repart chercher de l'eau, va au-dessus du feu verser sa goutte. Alors, il interpelle le colibri, il lui dit « mais enfin, colibri, qu'est-ce que tu fais ?» Eh ben, je vais chercher de l'eau avec mon bec et j'essaye d'éteindre le feu et je repars chercher de l'eau et j'essaye d'éteindre le feu. Le tatou lui dit, mais enfin, tu vois bien que ça sert à rien. T'as vu la taille du feu ? Il dit, oui, mais je fais ma part.
Alors aujourd'hui, cet incendie, on peut l'interpréter de différentes manières. Donc on parle de différentes crises. Maintenant, quelle est pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière ces flammes ? Quelles sont les flammes que tu as envie d'éteindre ?
Alors moi, c'est vraiment celle de l'éducation et de la relation. C'est-à-dire que ce que j'ai appris avec les enfants, c'est que quand il y a un conflit entre enfants, en fait, nous, on va les aider à sortir du conflit, puisqu'un conflit en soi, c'est pas si grave. En fait, ça fait partie du chemin de vie. Hein. C'est l'occasion de grandir, c'est l'occasion d'améliorer les choses, c'est l'occasion de créer de nouvelles idées, d'aller vers du nouveau. Donc, en général, les crises, en fait, sont à prendre comme des choses intéressantes. Mais bien souvent, notre mental s'effondre en disant « mon Dieu, c'est grave, il y a une crise ». Et ce que j'ai repéré avec les enfants, c'est que pour sortir de la crise, il faut que chacun reconnaisse sa part. Voilà, c'est ça qui aide à sortir de la crise.
Donc le mot éducation, quand je pense éducation nationale. Aujourd'hui, les professeurs passent tous par ce système de l'éducation nationale, les profs, les instituteurs, où on peut peut-être voir une certaine forme de formatage, ou je ne sais pas, mais j'aimerais savoir quel est ton itinéraire à toi, quel est ton parcours, est-ce que tu es aussi passé par la case éducation nationale, et à quel moment tu as choisi de remettre en question, peut-être, ou pas, enfin, quelle est ton histoire ?
Alors au début, moi je suis dans le formatage complet, et en plus, je m'y trouve plutôt pas mal. Voilà, parce que je viens d'une famille où j'ai pas vécu de choses difficiles dans mon enfance particulière. J'ai grandi, je suis allée à l'école, j'ai aimé l'école. Je n'étais pas une super élève, ce qui est le cas des enseignants en général. Hein. Parce que les super élèves, ils retournent pas à l'école, ils font des grandes écoles. Voilà, donc moi je suis allée à l'école et j'ai joué à l'école. On m'a dit que pour une fille c'était très bien de jouer à l'école, donc j'ai joué à l'école et quand je suis devenue grande, je suis devenue instite. Donc j'ai de la chance parce que c'est un métier que j'adore toujours autant. Et depuis que je suis petite, quelque part, je ne me suis jamais posé la question de ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Ça a toujours été clair pour moi. Voilà, donc ça, c'est mon cursus classique. Et puis, la vie, heureusement, m'a mis un peu des bâtons dans les roues, ce qui fait que j'ai fait ma part. C'est-à-dire que j'ai observé ce qui m'arrivait. Donc, c'est d'abord une histoire de couple, hein, banale, difficile, avec 3 enfants. Donc, ça a été compliqué, mais ça m'a vraiment obligée de regarder. Et du coup, de voir que j'étais formatée, mais ça, je ne le savais pas avant. Mais je n'étais pas dans une souffrance du formatage. C'est plutôt qu'il a fallu que je sois bousculée vertement pour me dire « mais en fait, ça fait mal ». Et en fait, ce n'est pas si bien que ça. Voilà, donc à partir de là, j'ai pris un autre chemin. Je me suis mis à regarder mais voilà, comment gagner ma liberté intérieure, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, et donc là, j'ai suivi un processus de psycho où j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment, j'ai beaucoup appris des outils relationnels qui m'ont immédiatement servi à l'école. Ce qui fait que quand j'ai rencontré Michel Valentin, là, dans la Drôme, quand on a commencé à réfléchir aux Amanins, au départ, je devais intervenir pour monter les classes découvertes et rajouter l'écologie relationnelle. ce que je disais, tous les cycles du vivant, le respect de la nature, c'est une chose, mais si on ne s'occupe pas de l'humain, en fait, ça, c'est pas très efficace, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc du coup, j'avais décidé de rajouter ça, et un jour, ça m'a échappé, je lui ai dit, mais on a une école ici, ça serait trop bien, on pourrait montrer tout ce qu'on fait. Et du coup, il m'a dit, ben pourquoi pas, vas-y. Et à ma grande surprise, monter une école, c'est d'une simplicité redoutable. Et en fait, c'est à partir de là où vraiment, pour moi, a émergé une nouvelle façon de voir les choses. Mais ce n'était pas contre. D'ailleurs, quand j'ai commencé à monter le projet de l'école, ça a été assez étonnant, parce que j'étais habituée à être contre des tas de choses dans l'éducation nationale qui m'agaçaient, que je ne trouvais pas juste, notamment le fait qu'on s'occupe de moins en moins des enfants en difficulté, qu'on nous mette des enfants de plus en plus en difficulté dans les écoles, alors qu'avant, ils étaient dans des structures plus spécialisées, et sous prétexte qu'il fallait les socialiser, et en fait, on les met sans aide, et c'est absurde pour eux, quoi. Donc ça, c'était un des points qui me mettait très en colère dans l'éducation nationale. Et là, tout d'un coup, je me retrouve, tu peux rêver ton école, vas-y. Et là, waouh, c'est pas du tout la même énergie. C'est l'énergie du pour. Et c'est formidable. Voilà, ça c'est l'expérience que j'en ai. C'est une énergie formidable parce qu'elle oblige à être créatif, elle oblige à entreprendre, elle oblige à se mouiller. Et voilà, donc là, dans l'école, on a décidé d'apprendre aux enfants les outils de la coopération. On s'est dit, nous les adultes, en fait, on en bave avec ça. Notamment la médiation, on ne sait pas très bien faire. En général, on attend que ce soit super grave dans un lien avec quelqu'un pour demander une médiation. Le médiateur sert en général à trancher et à prendre la décision à notre place, mais le lien a déjà rompu. Et là, on s'est dit, il faut qu'on apprenne nos enfants à travailler ensemble, à être dans la médiation le plus rapidement possible et que ça devienne comme un outil évident. Dès que ça coince, on demande à un médiateur de nous aider. Comme ça, ça décoince, on dépasse le conflit. On crée une nouvelle solution et on avance ensemble.
Donc vraiment être dans la coopération, dans la complémentarité plutôt que la compétitivité, ce que tu peux retrouver pas mal dans le système d'éducation classique.
Tout à fait. Donc dans le système classique, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir un enfant qui n'a pas aimé l'école. Mais sur 3 enfants, j'en ai 2. Ils ont fait comme moi. Ils ont pris ce qu'il y avait à apprendre dans l'éducation nationale. Ils y sont allés. Quoi, voilà. Et puis j'en ai un, depuis tout petit. Il m'a posé des questions, mais incroyables. Il me disait, mais pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Et ça, mais j'ai pas envie de le faire. Est-ce que c'est obligatoire? Mais pourquoi c'est obligatoire? Quel est le sens? Et là, il m'a appris, quoi. C'est cet enfant-là qui m'a appris l'école. Parce que j'ai réalisé, quand il est rentré en BEP, en écoutant ses profs de BEP, que c'était des profs qui parlaient pas comme les profs normaux. Du coup, je suis allée les rencontrer pour comprendre. Et en fait, c'était les profs dans les lycées techniques, ils ont un parcours qui est pas le même que les enseignants classiques, puisqu'il faut qu'ils aient d'abord travaillé pendant 5 ans avant de pouvoir être enseignant. Et là, mais un truc m'a sauté au nez en disant mais c'est incroyable, j'enseigne à des générations d'enfants ce qu'il faudra qu'ils fassent dans leur vie future dans un monde que je ne connais pas moi-même, je n'ai fait qu'aller à l'école. Il y a un bug magistral, donc il va falloir que je me renseigne, que je sache comment ça marche cette vie en dehors de l'école puisque c'est à ça que je les forme. Voilà, donc là on va dire qu'on les forme à une vision globale de la vie beaucoup plus large que simplement...
Sans en avoir fait l'expérience, en fait.
Sans en avoir fait l'expérience. Mais bon, je côtoie quand même le monde. Je discute avec les gens, donc je connais. Mais je ne l'ai pas expérimenté pour de vrai. Alors, quand je suis arrivée aux Amanins, c'est la première fois que je me suis retrouvée salariée. Voilà, à 35 heures par semaine. Alors, je peux rassurer les gens. Vraiment, l'enseignant ne vole pas ses heures. Parce que, voilà, un enseignant qui fait bien son travail et qui aime ce qu'il fait est largement à 35 heures par semaine. Donc, toutes les heures qu'il fait en plus, il peut les récupérer pendant les vacances scolaires. C'est de la récupération, ce ne sont pas des vacances. Parce que c'est incroyable le nombre d'heures qu'on peut donner quand on fait bien son travail. Hein. Je connais malheureusement quelques enseignants qui ne le font pas bien, mais j'en connais énormément qui le font très bien. Voilà. Et donc, l'idée, quand on a monté l'école, c'était pas d'être contre l'éducation nationale, c'était de montrer autre chose qu'on ne peut pas aujourd'hui faire dans l'éducation nationale. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, l'école a été reconnue par l'éducation nationale. Donc, à partir de la rentrée, on est école privée laïque sous contrat simple. Donc ça, c'est vraiment porteur d'espoir de se dire, bah oui, l'éducation nationale est aussi intéressée par ce type de démarche. Elle a besoin des gens qui expérimentent à l'extérieur. Et du coup, on essaye d'insuffler à l'intérieur. Donc là, chaque année, on prend 2 jeunes en service civique qui sortent de licence, qui ont l'intention de rentrer en master enseignement. Et du coup, je leur propose une année de tutorat à l'école. Donc ils travaillent avec moi, on travaille tous les mercredis ensemble pour les former. Et donc, ensuite, ils rentrent en master enseignement et du coup, réussissent le concours. Et du coup, ce qu'ils ont appris ici, ils peuvent prendre ce qui les a intéressés, ce qui les a touchés et le transporter là où il y a le plus d'enfants, parce que c'est quand même l'endroit où il y a le plus d'enfants, l'éducation nationale. Voilà. Moi, j'étais pas farouchement contre l'éducation nationale, c'est pas ça l'idée. Pour moi, je me place en éducation, je suis au-dessus. Je ne suis pas dans le combat privé-public. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les enfants de demain.
Voilà. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les enfants de demain? Il y a une phrase, donc c'est en Osamana, hein, c'est la fête aujourd'hui. Et j'ai vu sur une tonnelle, quelque part, une phrase. Quelle planète? Tu vas peut-être me la dire.
Alors, c'est quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Donc ça, ce sont les deux phrases de base du projet des Amanins, vraiment.
Et alors, quel enfant as-tu envie de laisser à la planète?
Alors, ça, c'est un beau pari. En éducation, c'est toujours des paris. Hein. En gros, ce sont des enfants qui auront appris l'empathie. Ils auront appris, j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Jacquard, l'art de la rencontre. C'est-à-dire que vivre ensemble, c'est pas facile. Coopérer, c'est excessivement difficile. C'est une posture qui s'apprend. Donc nous, on a fait le choix à l'école de leur apprendre. Donc on a des outils très spécifiques, un atelier philo, on fait de l'éducation à la paix, être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres, être en paix avec son environnement. Donc on a vraiment développé des outils très concrets autour de ça. Et ce qu'on observe, c'est que du coup, les enfants apprenant ces outils-là sont entre eux dans une écoute beaucoup plus forte, dans une empathie, du respect. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont complètement normaux, hein, ils se bagarrent comme tout le monde. Ils ont du mal parce qu'ils sont en train d'apprendre. Du coup, pour eux, c'est même d'ailleurs pas toujours très agréable parce qu'il y a une espèce de pression de gens extérieurs qui disent « Puisque tu es aux Amanins, tu devrais savoir faire. » Et moi, je me bagarre pour dire « Non, non, mais ils sont en train d'apprendre. » Et ils font des erreurs parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend et qu'on comprend. Voilà, donc ils essayent d'apprendre, ils se servent beaucoup de l'outil de la médiation. Et puis, quand ils passent au collège, les retours qu'on a après, là, dernièrement, il y a un livre que je suis en train d'écrire avec une journaliste là, pour Actes Sud. Et dans ce livre, du coup, elle a voulu aller interviewer des élèves qui sont partis de l'école. Et moi, en fait, c'est quelque chose que je ne connais pas, ce qu'ils en font après, des outils qu'ils ont appris. Et j'ai été excessivement touchée de voir à quel point ils avaient compris que l'important dans la vie, c'était le lien à l'autre, quoi. La relation, donc ils parlent du respect, qu'ils ont appris le respect. Voilà, qu'aux Amanins, ils étaient vraiment respectés par les adultes et que dans le monde du collège, c'est quelquefois difficile pour eux de voir des enfants qui ne respectent pas les adultes, des adultes qui ne respectent pas les enfants, des enfants qui ne se respectent pas entre eux. Voilà, mais qu'eux, ils connaissent ça, que le lien à la nature aussi, pour nous, c'est très important.
Donc c'est un peu une école de valeurs.
C'est une école de valeurs, oui, tout à fait. Et en même temps, on fait quand même l'instruction, c'est-à-dire que la première mission de l'école, c'est l'instruction. Ça, c'est notre mission de base. Ils sont là pour apprendre à lire, écrire, compter, c'est vraiment la base. Ensuite, cette mission est prétexte à éduquer, puisqu'on est des aides de relation. À partir du moment où je rentre en relation avec quelqu'un, je l'éduque, inévitablement. Donc du coup, il faut vraiment que je me pose des bonnes questions sur qu'est-ce que c'est éduquer pour moi. Et là, je deviens co-éducatrice des mêmes enfants que les enfants des parents. Et du coup, on doit travailler ensemble. Donc les parents de l'école travaillent en lien avec moi. C'est-à-dire qu'on se rencontre le plus régulièrement possible. Je les forme aux outils qu'on utilise à l'école, de façon à ce qu'à la maison, ils puissent en entendre parler. Et voilà, et j'ai des témoignages de parents me disant l'autre jour on avait un conflit à la maison et notre fille nous a dit il va falloir faire une réunion de vivre ensemble. Voilà. Donc voilà, les enfants transportent l'outil à l'extérieur, donc ça c'est touchant quoi.
Donc là on a répondu à la question quels enfants laisserons-nous à la planète, donc des enfants avec des valeurs, celle du respect, de la coopération, celle peut-être de la conscience finalement, prendre conscience de qui on est, comment on se positionne et de l'autre, conscience de l'autre. Et pour répondre à la question, quelle planète laisserons-nous à nos enfants?
Alors ça, c'est tout un autre versant, mais pour moi qui est complètement lié. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends conscience que l'autre m'aide à devenir ce que je suis moi-même, hein, donc j'aime beaucoup cette phrase de « tu es, donc je suis », c'est-à-dire que j'ai besoin de mon alter ego pour exister, si toute seule, j'existe pas vraiment. Donc j'ai besoin de l'autre pour me comprendre, pour savoir qui je suis, et en effet miroir, on se nourrit et on se renvoie les choses, et c'est idem avec la nature, c'est-à-dire vraiment être conscient qu'en fait je viens de la nature, j'en suis dépendant, du coup j'ai vraiment intérêt à en prendre soin, et que du coup quelle planète laisserons-nous à nos enfants, ça serait une planète, elle sait déjà faire, elle est dans le don, voilà, la nature est dans le don, et du coup faire observer que non seulement elle est dans le don, mais qu'elle est bonne pour nous, que c'est agréable, que ça nous nourrit, que ça nous apaise, donc tout est là, tout est donné. Et nous, on est là à dire non, mais ça m'appartient, non, ça appartient. Enfin, pour moi, l'exemple des graines que des voleurs osent dire, mais ces graines nous appartiennent, on va les breveter, mais de quel droit? Les graines, ça n'appartient à personne, ça a été donné à tout le monde, et donc c'est vraiment interdit de faire des choses pareilles. Donc là, il faut s'insurger contre et résister. Et dire ça, c'est non, Il n'y a pas de raison. Bientôt, l'eau qui court dans les rivières, on va nous dire qu'elle appartient à quelqu'un, l'air qu'on respire, enfin voilà.
Et tout ça au nom d'un schéma économique, tout ça au nom de croyances.
Au nom du matériel. Alors moi, voilà, j'ai un parcours classique, hein, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'y ai cru au matériel. Moi aussi, j'ai couru derrière. J'ai pensé que c'était ça la clé du bonheur. Et puis, ben, heureusement, les aléas que j'ai eus dans ma vie m'ont prouvé que pas du tout, ça ne résout rien du tout. Et que moi, ce qui me rend heureux, très clairement, c'est le lien à l'autre. Très clairement, c'est le lien à l'autre et le lien à la nature. C'est un tout. Et que sans ce lien-là, le reste, on s'en fout. Alors, je crache pas du tout sur le confort minimum. Hein, c'est-à-dire que je suis bien d'accord, je roule en voiture, j'ai une maison, j'ai un frigo. Voilà, ce confort-là, je sais qu'il facilite ma vie et j'en suis bien contente. Mais c'est tout, quoi. Après la course au matériel et avoir du toujours plus, voilà. Puis moi, clairement, mon mari est décédé il y a 2 ans brutalement, et clairement, je sais que ce qui me manque, ça ne se remplace pas.
Voilà. Donc, pour recadrer, repositionner, donc là, auditeur, vous n'avez pas la dimension visuelle, mais on est aux Amanins. Peut-être qu'on va avec Isabelle. Juste présente-moi le lieu.
Alors, ici, nous sommes dans la cour de l'école. Dans la cour de l'école, donc c'est un endroit très apaisé. On est dans un coin où il y a les arbres. Ce sont des beaux arbres qui avant faisaient une voie romaine. Donc il y a des immenses chênes. Voilà, les enfants font leur cabane sous ces grands chênes et sous les arbres qui sont autour. Il y a des grands buis, il y a aussi des lilas, il y a aussi, je ne me rappelle plus le nom, mais il y en a... des sureaux, pardon, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Et puis, devant nous, nous avons la chaîne du Vercors qui se détache dans le ciel. Le temps aujourd'hui est parfait, les hirondelles volent au-dessus de nous. Voilà, on voit les dégradés de bleu à l'infini qui vont sur la chaîne du Vercors, voilà.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
de parler aussi de ce rapport à la Terre, parce que là on parle essentiellement de l'école, mais c'est aussi un centre école pour ceux qui viennent faire des séminaires, des stages, notamment autour de l'agriculture ou plutôt de l'agroécologie. Donc on va peut-être aussi donner un mot là-dessus, on va parler un petit peu de ça.
Alors cultivons, il y a cultiver le lien, pour moi c'est vraiment très important. Les enfants, ils cultivent aussi leur propre jardin potager à l'école. Donc dans une école, la grande limite d'une école, c'est qu'elle est fermée en juillet-août, et pour un jardin potager, c'est très embêtant. Donc du coup, ils font des légumes qu'ils peuvent ramasser fin juin. Voilà, c'est notre limite. Mais on leur apprend à nourrir la terre, on leur apprend un truc très important qu'on leur apprend à l'école, c'est que c'est la nature qui commande. C'est-à-dire que, imaginons qu'il pleuve pendant une semaine, et qu'ils n'aient pas pu aller travailler dans leur jardin. On a 2 jours de beau temps. Le premier jour, on ne peut pas y aller parce que c'est encore trop humide. Et enfin, on peut pénétrer dans le jardin. Et ben, on ne fait ni maths ni français. C'est la nature qui commande. C'est la météo qui commande, ce n'est pas nous. Voilà, vraiment leur apprendre que c'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc ça, c'est des valeurs vraiment importantes pour nous. Et sinon, donc, l'école est une école un peu hors les murs puisqu'elle se trouve sur un lieu qui s'appelle les Amanins, où là nous avons recréé, on a refait finalement une ferme assez classique en polyculture élevage. Donc aujourd'hui on appelle cette ferme une ferme en agroécologie, c'est-à-dire que le principe c'est d'essayer que tout ce qui meurt à un endroit soit vivant pour quelque chose. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, nous avons des brebis. Ces brebis, nous leur faisons porter des petits, ce qui fait qu'ensuite elles ont du lait. Avec ce lait, on peut faire du fromage. Quand on produit du fromage, malheureusement, ça produit du petit lait. Enfin, pas malheureusement, ça produit du petit lait, mais ce petit lait, malheureusement, est très polluant. Donc, on le donne à des cochons. Voilà, parce que les cochons, eux, adorent le petit lait. Et ensuite, on va manger les cochons. Donc, sur le lieu, on a refait une ferme en polyculture élevage. Donc, on a des animaux, du maraîchage, on a des poules, des cochons, des vaches et des moutons, voilà, principalement. Donc l'idée, c'est de tout ce qui meurt d'un côté nourrit de l'autre. Donc par exemple, tous les déchets des animaux vont servir à faire du compost, et ce compost va aller sur le maraîchage pour produire nos propres légumes. Voilà. Et donc cette ferme va accueillir des gens en séjour qui viennent aux Amanins, soit pour découvrir le lieu en vacances, soit pour profiter du lieu et être en hébergement, restauration, voilà, en pension complète.
Alors des bâtiments aussi qui ont pris en compte la transition, on parle aujourd'hui de transition énergétique, donc il y a aussi toute une réflexion qui a été menée autour du bâtiment.
Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'était l'idée de base, c'était de dire, allez, la nature est généreuse, on va essayer de montrer tout ce qu'il y a sur un lieu, tout ce qu'on peut utiliser qui est là sur place. Alors, comme on a des céréales, on a de la paille. Donc, on s'est dit qu'on pouvait construire en paille. Ici, on a de la chance d'avoir une terre argilo-calcaire. Donc, on a des très belles veines d'argile. Donc, on a pu faire des enduits terre avec cette argile. Et puis, faire des briques de terre crue, faire des adobes. Voilà. Et puis, ossature bois. Alors, le bois, au départ, on l'a acheté dans la vallée de Die. Et la deuxième coupe, c'est une forêt qui s'appelle la forêt de Sous, qui est à quelques kilomètres d'ici. On a pu avoir une coupe de Douglas. Voilà, donc du coup, tout le lieu a été pensé comme cela. Donc, on a retapé le plus possible avec les matériaux pris sur le lieu pour réduire les circuits. L'idée, c'était toujours de montrer qu'en fait, déjà sur un lieu, il y a beaucoup de choses. Après, au niveau de la nourriture, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on essaye d'être autonome dans ce qu'on produit. Aujourd'hui, le centre accueillant beaucoup de monde, forcément, de temps en temps, quand il y a des grosses fêtes comme celle d'aujourd'hui, on a des paysans dans le coin qui nous fournissent aussi en légumes, parce que c'est impossible d'avoir un maraîchage qui ait pile le bon nombre de salades le bon jour. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, on essaye d'être le plus possible en autonomie. Voilà. L'idée, c'était certainement pas de l'autarcie. C'était vraiment de montrer qu'un lieu est très généreux. Donc c'est la même chose pour l'énergie, c'est la même chose pour la phytoépuration. Donc l'énergie, ici, on est donc dans la Drôme, on est un peu sur un pic, donc on a du vent, voilà, le Mistral. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'il devienne notre ami, qu'on utilise les bons côtés. Donc la première chose qu'on a fait aux Amanins, c'est qu'on a mis des haies de partout pour couper le vent. Pour les cultures, c'était vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis une éolienne qui nous fournit l'électricité. On a des panneaux solaires le plus possible pour l'eau chaude et on a une chaudière à bois déchiqueté. Donc c'est aussi la diversité qui est importante. Voilà, en écologie, c'est ce qu'on repère, c'est qu'il faut diversifier les apports de façon à toujours avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà.
Et pour terminer, on va commencer avec l'éducation. Donc on va maintenant parler aux enfants. Isabelle, qu'est-ce que c'est que l'école du colibri?
Si je parle aux enfants?
Ouais, à un enfant. Voilà, j'ai 5 ans. Ouais. Je me pose des questions sur mon avenir, sur la planète sur laquelle je vais grandir, et sur l'école des colibris. Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'école des colibris, c'est une école où on va essayer de te donner envie d'apprendre. On sait que tu as envie d'apprendre et on va essayer de cultiver ça. On va pas te voler la réussite. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui t'explique, c'est toi qui vas chercher. Et du coup, c'est toi qui vas avoir le bonheur de trouver. Parce que cette jouissance de l'être humain quand il trouve ce yes que ça fait à l'intérieur, il faut pas qu'on te le vole. Donc, il t'appartient. Donc, je vais te le laisser. Par contre, je vais t'accompagner sur son chemin et il faut que tu me fasses confiance. Je vais essayer de le faire avec la meilleure intention possible. Voilà. Et puis, je vais t'apprendre le lien avec l'autre. Parce que pour bien grandir et pour aller bien, tu as besoin de l'autre. Donc, je vais t'apprendre ça. Et du coup, je vais t'apprendre à prendre soin de ce lien. Et puis, on sera en pleine nature. Donc, tu pourras apprendre tout ce que la nature va t'apprendre. Alors, chez le petit, c'est très fort. Hein, c'est-à-dire qu'il suffit de jouer dehors pour apprendre.
À quel âge on entre à l'école? À quel âge on en ressort? Ici, l'école du colibri?
Alors, c'est une école élémentaire. Donc, les enfants arrivent en CP, donc à 6 ans. Et repartent pour le collège, donc en fin de CM2, vers 11 ans. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Parce que au départ, il y avait une école Montessori qui se montait dans le village d'à côté. Donc, elle ouvrait en maternelle. Du coup, on s'était dit que c'était pas la peine de se faire de la concurrence, qu'au contraire, c'était complémentaire, c'était parfait. Voilà. Et après coup, on n'a pas regretté parce que le lieu ne se prête pas tellement à des maternelles. En fait, donc, c'est beaucoup plus riche. Du coup, là, on est plutôt en train de réfléchir à un projet collège. Voilà. Alors, pas sur ce lieu-là, mais sur la ferme. Il y a la ferme qui est juste à côté, vient d'être achetée. Et donc, c'est une association qui s'appelle l'Université de l'Avenir qui va s'y mettre. Ils ont un volet éducation et du coup, on travaille ensemble sur un projet collège. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite.
Waouh, superbe. En tout cas, il y a de l'avenir et vous pensez à demain. Voilà.
Ah oui, ça c'est important.
Juste, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tu me parles de l'école Montessori, Steiner, Freinet, Colibri.
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 Non, c'est vraiment important. Moi, je veux pas d'étiquette. Je défends beaucoup que l'enseignant doit redevenir chercheur en pédagogie. Et que, comme il va enseigner avec sa propre personne et sa propre richesse, moi je suis pour la diversité en pédagogie. Donc ici, je fais du Isabelle Peloux parce que je peux pas faire autre chose. Mais par contre, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pas tout inventé. Je me suis inspirée de certaines choses chez Montessori, de certaines choses chez Steiner, de certaines choses dans les diverses, bon, beaucoup chez Freinet et de Crowley. Voilà, et puis des tas d'autres pédagogues, hein, beaucoup plus récents, dont Philippe Mérieux qui a beaucoup travaillé avec moi. Bien sûr que je me suis inspirée, que j'ai encore besoin d'eux pour m'enrichir, etc. Mais c'est moi qui ai fait certains liens spécifiques. Et cela, ben, peut-être ça sera force de proposition pour d'autres, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants ici qui viennent en stage dans les formations que j'anime. Donc nous, ça s'appelle la pédagogie de la coopération, et je les invite beaucoup toujours à l'enrichir de la personne qu'ils sont. Et de pas, surtout pas repartir d'ici en disant on va faire du Isabelle Peloux, c'est impossible. Donc il faut qu'ils soient créatifs et que, voilà, pour moi c'est aussi tout le sens de l'histoire du colibri. Il faut faire sa part et qu'on ne peut pas se cacher derrière l'étiquette d'un nom. Il faut être responsable de ce qu'on met en place et y croire et le faire avec amour, enfin vraiment.
Merci Isabelle.
Merci.
On inspire. On expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond. Thank you.